Les attas, comme la plupart des fourmis, fondent de nouvelles colonies à partir d'une femelle fécondée au cours de l'essaimage, la future reine. Sa taille est colossale, 25 à 30 mm, comparée à celle des ouvrières, ses filles, dont les plus petites n'excèdent guère 3 mm. La femelle, pourvue de sa provision de spermatozoïdes, creuse une chambre et, avec les matériaux contenus dans son intestin, prépare un jardin où meule à champignons. C'est dans sa loge, creusée par elle-même, que la jeune reine sera filmée. Avant de quitter le nid maternel, elle avait pris la précaution d'emplir son sac buccal de fragments de champignons avec lesquels elle ensemence son propre jardin. Quelques jours après avoir ébauché sa meule, elle commence à pondre. Tous les œufs qu'elle expulse ne sont point destinés à engendrer une petite fourmi. Il en est, dit alimentaire, qui sont donnés en pâture aux jeunes larves. La reine s'en octroie une large part, car elle se nourrit sur elle-même de sa graisse, de ses muscles et de ses œufs alimentaires. Elle peut subsister des mois consommant ses seules réserves. Elle dépose ses œufs sur l'ébauche du jardin à champignons. Elle transporte ses larves si translucides qu'on les dirait faites d'un verre laiteux. Tout en léchant ses œufs et ses larves, la reine les palpe de ses antennes qui sont ses indispensables informateurs. Après le travail et la ponte, il convient de faire un brin de toilette. Opération compliquée que la reine exécute avec beaucoup de soin. Pièces buccales, antennes, pattes sont léchées et étriées. La fourmi porte sur elle sa trousse de toilette faite de minuscules organes, pinces, racloirs et peignes. Elle ne reste pas longtemps inactive. Elle aspire ou lèche le liquide qui sort du petit jardin à champignons. Elle prend un fragment de la meule faite d'excréments de filaments de champignons. Elle l'arrose de son urine qui active, comme un engrais, le développement du cryptogame. À gauche, sur le nid même, les larves sont entassées les unes sur les autres. Une séance de travail succède une nouvelle toilette. Maintenant, les pièces buccales sont frottées avec la lèvre inférieure et les antennes ainsi que les pattes étrillées avec des épines visibles seulement avec une forte loupe. Après quelques instants de repos, le travail va reprendre. La reine pond à nouveau et expulse un œuf alimentaire. Les œufs reproducteurs sont moins nombreux et plus ovoïdes. En voici un. Maladroite, la reine l'a laissé tomber. Elle le reprend et le dépose sur le jardin à champignons. À cet instant, elle se saisit d'une larve et la transporte ailleurs. À tout instant, les larves sont léchées et déplacées. Les fourmis sont pleines de sollicitude à l'égard de leur progéniture. La ponte automatiquement se poursuit et c'est un nouvel œuf alimentaire qui est délicatement posé et soigneusement collé sur une larve, de telle manière que celle-ci pourra s'en saisir de sa bouche et en aspirer le contenu. Les œufs alimentaires deviennent véritablement les biberons des larves. Lorsque le biberon est vidé, un autre le remplace. La succion est si forte qu'elle déplace le tube digestif dont les mouvements se voient par transparence. La larve qui a terminé sa croissance devient une nymphe brune de peau où s'ébauche l'insecte parfait. Un œil noir est déjà visible sur celle-ci. La première ouvrière vient de sortir des langes qui l'enveloppaient. Elle est petite à côté de la reine énorme et cuirassée. Mais tout de suite, courageusement, cette minuscule ouvrière se met au travail. Elle n'hésite pas à porter un œuf alimentaire qui est presque aussi gros que sa tête. Sans aucune leçon préalable, elle sait le déposer sur une larve juste au point convenable. Elle est déjà possédée de cette ardeur au travail qui anime tous les habitants de la fourmilière. Elle se livre sans cesse à de nouvelles besognes, transport d'œufs, de larves, léchage, et de temps à autre, elle consent à manger. La reine, à côté de sa première fille, continue à travailler. Elle rejette de nouveaux excréments et accroît ainsi son jardin tandis que la petite ouvrière soigne les larves et lèche les œufs. Dans la colonie âgée d'un an, la population est déjà nombreuse. Les ouvrières pourvoient à ses besoins. L'une d'elles transporte une jeune ouvrière éclose depuis peu. La reine conserve son activité, mais maintenant elle se contente de pondre. Ses filles la nourrissent, lui distribuent généreusement des boulettes de champignons mélangées de salive ou du suc de mycotète. Fourmilière, âgée de 2 ans et demi, les jardins sont devenus énormes comparativement à la taille des habitants. Au laboratoire, ils sont édifiés dans de grandes cloches de verre où règne l'humidité qui leur est indispensable. Les ouvrières passent d'un jardin à un autre par de gros tubes de verre qu'elles traversent en courant comme si elles étaient en retard. Le jardin à champignons change de couleur avec l'âge. La partie la plus basse est la plus ancienne. Elle ne produit plus de champignons. La partie moyenne est celle qui est en pleine production. Et au-dessus se tient la partie la plus jeune, la plus sombre, que les fourmis viennent de construire. Sur les lieux de récolte, les ouvrières déploient une grande activité. Certaines coupent les pétioles des feuilles et les transportent entre leurs mandibules comme s'il s'agissait de petites poutres. D'autres s'attaquent aux pétales de rose. Le travail des mandibules débitant en lambeaux le pétale rappelle celui du cordonnier qui, avec son tranchet, découpe les feuilles de cuir. Les mandibules agissent comme des ciseaux bien aiguisés. L'insecte les manœuvre avec une grande dextérité. Thank you. Dès que le fragment est découpé, l'ouvrière le saisit entre ses mandibules, lui fait subir une rotation, le tient à la verticale, puis part vers une meule à champignons. C'est toujours une opération délicate que ce découpage. Parfois, l'ouvrière ne réussit pas à maintenir vertical le lambeau de feuille et le laisse tomber. D'ordinaire, elle ne tente pas de le ressaisir. Elle l'abandonne, mais plus tard, une de ses compagnes le prendra entre les mandibules et le portera sur une meule. Le travail continue. Les pétales, peu à peu, sont débités en lanières plus ou moins larges. Les ouvrières poursuivent leur tâche avec fébrilité. Rien ne les arrête et elles paraissent infatigables. Les allées et venues de leurs compagnes ne dérangent pas celles qui taillent les pétales. Cette tâche est si absorbante. Et maintenant, en route pour le jardin. Dépêchons-nous plus vite, toujours plus vite, c'est la loi de la fourmilière. Arrivées sur la meule à champignons, les ouvrières déposent leur fardeau. Une nouvelle tâche les attend. Il faut préparer les feuilles pour les incorporer à la masse de la meule. Souvent, ces lambeaux de feuilles ne sont pas traités immédiatement, mais restent un certain temps abandonnés sur la meule. Les ouvrières ne les reprennent que plus tard. Elles en mâchent les bords, les mastiquent longuement, en font une pâte grossière où le champignon se développe uniformément. Les ouvrières se mettent à plusieurs pour porter les lambeaux de feuilles. Leurs actions sont mal coordonnées. Quelques-unes tirent à U, d'autres à Dia, enfin les plus fortes entraînent les autres et façonneront les feuilles quand elles auront trouvé l'endroit propice à leur ouvrage. Les pétioles des feuilles sont travaillées comme les limbes, usées et écrasées par les mandibules. Le découpage des feuilles se poursuit. Les grands lambeaux sont divisés en petits fragments. Puis malaxés, roulés entre les mandibules et mouillés de salive. Il est probable que la salive mélangée aux feuilles intervient dans le développement du champignon. La pâte de feuille est incorporée à la meule qui peu à peu grandit, s'élève. De nouvelles vallées, de nouveaux creux apparaissent à sa surface et dans sa masse. La teinte verdâtre de la pâte de feuille fraîchement déposée ne se confond pas avec les taches blanches de mycélium. Comme le faisait la reine, les ouvrières ne manquent pas d'arroser de leurs excréments les boules de pâte qu'elles ajoutent à la meule. L'engrais stimule la croissance du champignon. Plus les ouvrières sont nombreuses, plus grande est leur activité. Il faut parfois que les attas repiquent le mycélium sur les parties nouvellement construites pour assurer le développement rapide et général du champignon. À cet effet, la fourmi tient entre les mandibules une petite boule de mycélium et de toutes ses forces l'insère dans la meule. La bouture est le point de départ d'une végétation très abondante. Le champignon qui se développe sur et dans les meules est voisin des agarics qui poussent dans les prés. On le classe dans le genre Rosites. Tant que la fourmilière est en bonne condition physique, le Rosites ne fructifie pas, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de chapeau venant s'épanouir au-dessus du sol et que dans le nid bien portant, sa reproduction demeure asexuée. À la surface de la meule, le blanc du champignon forme de larges plaques blanches, plus étendues et plus épaisses sur certaines zones que sur d'autres. Il finit par recouvrir le jardin d'un manteau aussi blanc que de la neige. C'est sur lui que les œufs et les larves seront déposés. Il forme un tapis doux, élastique et humide qui convient parfaitement au couvain. Les fourmis prélèvent sur les meules le blanc du champignon ou mycélium fait d'un feutrage de filaments et surtout de petites boules qui poussent sur ce blanc et rappellent en miniature des choux-fleurs. On les nomme mycotètes. C'est l'aliment préféré des attas. Les larves en reçoivent en plus des œufs alimentaires. Les petites ouvrières, et elles seules, mâchent les fragments de champignons, en expriment le suc qu'elles dégorgent par intervalles aux larves qui en sont avides. Manger une mycotète est une opération à laquelle les attas accordent beaucoup d'importance et de temps. Doucement, lentement, la mycotète est tournée entre les mandibules et avalée peu à peu. Les fourmis déplacent d'une façon incessante leurs nymphes, leurs œufs, comme si elles étaient poussées par un besoin impérieux de travailler et de s'agiter. Sans raison, elles recommencent leurs tâches et toujours avec fébrilité. Mais les fourmis savent-elles séparer l'utile de l'inutile? Agir, agir est leur règle. Les petites ouvrières ne sont pas les moins laborieuses. Ce sont elles qui s'occupent du transport des larves et des œufs. Elles sont bien plus nourrices que récoltantes. Elles se mettent à plusieurs pour porter une grosse nymphe. La tâche est malaisée, mais elles saisissent les larves et les nymphes avec tant de précaution que leurs mandibules acérées ne causent aucune blessure à celles-ci. Les grosses ouvrières à tête bilobée, armées d'épines, sont belliqueuses et combattent leurs congénères appartenant à un autre nid. Elles sont de redoutables et opiniâtres combattants. Des fourmilières ennemies se livrent parfois de véritables guerres qui durent des semaines entières jusqu'à l'anéantissement de l'un des nids. Les attas, au cours de la journée, ne s'octroient que quelques instants de repos, mais elles accordent beaucoup de soins à leur toilette. La propreté est une condition de la réussite du développement de la fourmilière qui, comme une grande ville, a ses déchets et les évacue. Les mycéliums altérés, les fragments de jardin devenus stériles et les cadavres sont minutieusement rejetés hors du nid, au dépotoir, au grand dépotoir de la fourmilière. Tout nid qui se porte bien est d'une méticuleuse propreté. Les fourmis, qui manquent peut-être d'imagination, imposent à leur déblai la même forme qu'à une meule. Les attas donnent un des plus beaux exemples de ce que peuvent être l'instinct et la vie sociale portée à leur plus haut degré de perfection. Mais l'instinct ne peut sortir de l'automatisme et se répète toujours semblable à lui-même.